Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus.
Nous avons la parole de Dieu
ici, Jabodima,
qui renverse des raisonnements, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Tais-toi quand tu parles. Voilà le thème que l'on va traiter aujourd'hui. C'est-à-dire que finalement, quand on parle, c'est le reflet de qui nous sommes. Quand je m'exprime, c'est le reflet de qui je suis. Et en introduction, on explique un peu ce qu'on va voir ces deux jours. C'est la communication qui se fait au-delà des mots. Il est question de l'attitude, il est question du ton, il est question de la gestuelle. Autant de facteurs qui vont favoriser ou non le message qu'on va faire passer. Et cela, aussi bien dans le couple, dans la famille, au travail, quel que soit le type de relation. Nous sommes confrontés régulièrement à des difficultés relationnelles, malgré notre désir d'avoir des échanges encore plus riches avec les autres. Et qui n'a jamais souffert d'une situation à cause d'un geste, d'un regard, de quelque chose qui a été dit, un ton pas approprié, un ton peut-être trop provocateur ou sec par rapport à ce que nous voulions dire. La façon de nous prononcer. Alors, moi j'ai une bonne nouvelle, je vais pas être très long, mais vous allez pouvoir travailler à la fin de chaque exposé qui durera à peu près 20 minutes. Et ensuite, travailler sur les points qui sont énoncés, c'est le but du séminaire, que vous puissiez parler entre vous, échanger entre vous. Et sur les bonnes choses que vous avez vécues et sur les choses un peu moins bonnes. Et nous allons voir combien le Seigneur va servir de ce temps afin que nos relations puissent être changées et améliorées. Alors mieux communiquer, ça concourt à un épanouissement au niveau personnel, relationnel. Et de plus en plus de personnes prennent des cours de communication pour pouvoir mieux s'exprimer, que ce soit dans les entreprises, que ce soit personnellement. Et inévitablement, j'ai l'impression que l'on revient à la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que Jésus était un homme de contact. Et l'homme lui-même ne peut rien inventer. Il va puiser dans ses propres sources, mais inévitablement, à un moment donné, sans le savoir, il va utiliser des principes bibliques au niveau relationnel. Parce que Jésus était un homme de relation. Et l'homme qui cherche des vraies valeurs, inévitablement, un jour ou l'autre, va être amené à replonger dans la parole de Dieu, avec des principes bibliques, des principes d'honnêteté, des principes de franchise, de transparence. Et donc la communication, c'est un travail. Et un de nos problèmes, souvent qu'on peut rencontrer dans nos églises, c'est que l'on se convertit, on donne notre vie à Jésus, tout va bien. Et souvent dans nos églises, on souffre non pas d'un manque de communication, mais d'une mauvaise communication. Donc je reste persuadé que l'on va recevoir, que nous allons recevoir aujourd'hui des perles. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler ce séminaire. C'est la première fois que je l'enseigne. Et je dis à mon épouse tout à l'heure, j'ai passé plus de 3 jours à préparer ce séminaire, presque jour et nuit. Et j'étais béni moi-même de préparer ce séminaire. Si on m'avait mis des choses à cœur, mais là, de les coucher par écrit, de pouvoir les partager aujourd'hui, je sais que ça va être un moment particulier. Enfin, je l'espère, toujours est-il. Là, nous allons voir des perles ensemble. Donc toujours est-il qu'il faut se rendre compte que l'on communique en permanence. Je suis en train de communiquer quelque chose. Vous, même dans votre attitude, vous êtes en train de me communiquer quelque chose. Soit vous avez rien à faire et apparemment non, soit vous attendez, et ce qui est plutôt ce que je vois en vous, vous attendez la substance, le contenu de ce qui va être partagé pendant ces 3 jours. Et c'est pas une attitude individuel qui va montrer cela, mais c'est plutôt une attitude générale du groupe que vous êtes. Donc vous communiquez quelque chose, et moi-même je suis en train de communiquer quelque chose. Quand je me regarde dans la glace, par exemple, je me fais passer un message. Et il y en a qui n'osent pas se regarder dans la glace. Et ceux qui sont mariés, ils ont une glace en permanence chez eux, c'est leur conjoint. C'est leur conjoint qui va avoir en face de lui l'attitude, la personne, l'image que nous-mêmes, nous communiquons à l'autre. Donc on va essayer d'améliorer aujourd'hui cette communication de communiquer. Et quand on va améliorer cette façon de communiquer, inévitablement, il y aura des conséquences. Des conséquences positives, d'abord pour soi, et ensuite pour son entourage, pour ceux que l'on côtoie. Nous allons faire donc quatre groupes ce soir, et pour travailler sur des points que nous allons voir maintenant. Et dans les groupes, vous partagerez sur le point sur lesquels vous avez eu des difficultés sur l'année qui vient de s'écouler, et le point sur lequel vous décidez de travailler pour l'année à venir, n'est-ce pas? Et vous aurez l'occasion de partager des difficultés, des sujets de joie par rapport au point que l'on va apporter. Le premier point, me semble-t-il, très 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 important, il est question de l'attitude. L'attitude que j'ai. L'attitude que j'ai, c'est la façon de se tenir. Alors, l'attitude que j'ai, c'est la façon de me tenir. Par exemple, si je me tiens de cette façon-là, c'est peut-être quelqu'un qui est un peu léger. Par contre, je peux me tenir de cette façon comme ceci, et là, avoir une autre prestance. Rien que mon attitude, la façon que j'ai de tenir mon corps, la façon de me tenir devant vous, va émettre un message. L'attitude, c'est aussi lié à la façon de se comporter. Souvenez-vous, il y a quelques années, le comportement à l'école était noté. C'est la façon de se comporter, c'est la façon de se tenir. Moi-même, à l'école, j'ai eu des difficultés à cause de mon comportement. Et quand j'avais 16, 17 ans, 18 ans, j'avais les cheveux longs. Et je me suis fait renvoyer d'un lycée à cause d'une mauvaise tenue. Il était noté mauvaise tenue et mauvais comportement. Parce que ma tenue engendrait un comportement qui déplaisait aux responsables de l'école dans laquelle j'étais. Ils avaient fait un amalgame entre ma tenue et mon comportement. Et quand mes parents ont demandé pourquoi j'avais été renvoyé de l'école, on a dit simplement à cause de sa tenue, de son comportement. Donc voilà, ça c'est ce qui m'est arrivé. Donc le comportement, c'est l'attitude, c'est aussi l'ensemble de réactions que l'on a, la façon de réagir dans une situation donnée. Et si vous examinez l'évangile, regardez l'attitude de Jésus par rapport aux pharisiens, par rapport à la prostituée, il avait une attitude, et c'était une attitude d'ouverture chaque fois. C'était un comportement, une attitude honnête. Et finalement, c'est ce que l'on reflète, le comportement et l'attitude. Proverbe 1, verset 5, nous dit que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera l'art de se conduire. L'art de se conduire. Il existe donc un art de se conduire. Ça, c'est comme tous les arts, ça s'apprend. La façon de se comporter, la façon de se conduire. Ça, c'est le proverbe 1er. Verset 5, donc. Le proverbe 15, au verset 13, nous dit « Un cœur joyeux rend le visage aimable. » Alors, il n'est pas question d'avoir un visage rayonnant parce que je suis chrétien, mais c'est à cause de ce que je vis dans ma relation avec Dieu. Alors, mon cœur est joyeux et mon visage même va rayonner. Un cœur joyeux rend un visage aimable et ça, c'est un bon comportement. Paul avait un souci sur le comportement de Timothée, entre autres la façon dont il devait se conduire. 1 Timothée 3, au verset 5, Paul disait « Si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant. » Et là, il est question de comportement, de conduite pour les chrétiens. Donc, se conduire dans la maison de Dieu, c'est-à-dire que les chrétiens doivent avoir un comportement qui apparemment doit être différent des non-chrétiens. Toujours est-il, c'est ce qu'on lit dans la parole de Dieu. Dernièrement, il y a un frère qui me disait, une personne qui me disait, on peut penser qu'au fil du temps, dans l'église, on peut rentrer dans un moule. Parce qu'on devient chrétien. Et je lui dis, ça dépend tout ce que tu entends par moule. Si le moule est fondé sur la parole de Dieu, alors moi je t'encourage effectivement à rentrer dans ce moule très 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 rapidement. Et si tu le connais depuis quelques années, tu devrais effectivement rentrer dans ce moule de la parole de Dieu. Par contre, si c'est un moule de se calquer derrière une personne, comme une personne, c'est du mimétisme. Et ça, c'est pas forcément bon, n'est-ce pas? Mais Paul, il avait ce souci-là. Et il disait à Timothée, tout ce qu'il savait, tout ce qu'il connaissait, et il disait, mais si je tarde, tu sauras comment il faut ainsi se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Hébreux 13, verset 18, nous sommes convaincus d'avoir une bonne conscience avec la volonté de nous bien conduire avec les gens. Voilà ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire, d'avoir la volonté de se bien conduire. Donc notre conduite, notre comportement, tout ce qui est lié à l'attitude, c'est quelque chose de très 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 important. Hein. Et puis vous aurez l'occasion, dans quelques minutes, de parler de votre attitude, de vos comportements, aux personnes de votre groupe, et peut-être exprimer des désirs que l'on prie pour vous par rapport à des choses que vous avez vécues, pas forcément bonnes, suite à des mauvais comportements, ou des choses bonnes par rapport à de bons comportements. La deuxième chose dans les relations que nous allons voir maintenant, comme on a parlé de l'attitude, du comportement, c'est aussi le regard, la façon dont on regarde. Alors j'ai fait du recrutement pour des sociétés internationales et lorsque je faisais ce recrutement, on louait des salles dans des hôtels. Les gens avaient répondu à des annonces et je devais recevoir des personnes qui venaient pour être embauchées. Et cela durait plusieurs jours. Et lorsque la personne tapait à la porte, je disais à la personne de rentrer. Et je faisais semblant d'écrire. Elle ouvrait la porte, je disais, ben écoutez, rentrez. La personne rentrait. Et à ce moment-là, quand elle était rentrée, je le savais, elle refermait la porte derrière elle. Et là, je fixais mon regard sur la personne et de nouveau, je regardais mes dossiers. Et le seul regard que j'avais eu sur la personne, j'avais regardé la façon dont elle regardait, comment elle se comportait. Je savais si la personne avait des chances d'être embauchée ou pas. Simplement l'attitude, le regard de la personne, le comportement, l'attitude générale de la personne. Pourquoi ? Parce que la personne qui devait représenter notre société, quand elle allait rentrer chez un client, le client allait être en train de travailler, l'attitude, le comportement et le regard allaient avoir un impact sur le résultat de cette première rencontre, de la démarche du commercial chez le client. Jésus lui-même avait une attitude avec les 5000, une façon de faire, et puis il avait une autre attitude avec les 12, puisqu'il les prenait à part pour leur expliquer, et il y avait plus d'attention, plus de passion, plus d'affinité, plus d'intimité. Et pour revenir au regard, puisqu'on a tendance souvent à faire un amalgame entre l'attitude, le regard, le comportement, d'où quand même la conclusion que le regard est important. Mais je me souviens, moi petit, mon papa, des fois, il me disait, mais baisse les yeux. Et je le regardais et il pensait que je l'agressais du regard. Alors je me regardais, j'allais jusqu'à me regarder dans la glace et je m'examinais moi-même pour savoir si effectivement j'avais de l'agressivité dans le regard ou si j'avais du mépris. Et j'ai passé pas mal de temps d'ailleurs, derrière la glace. Et il y a une expression qui sort de nos yeux. Les yeux expriment la façon dont on ressent les choses. Alors, il peut y avoir un regard tendre, hein, les hommes savent faire ça, les femmes aussi, selon les situations. Il peut y avoir un regard sévère, comme ceci, par exemple. Et la même personne peut avoir un regard tendre, à un moment donné, avec son enfant. Et puis l'enfant fait une bêtise, et puis avoir un regard sévère. Moi, je sais que le regard sévère, ça marchait beaucoup avec mes enfants. Et bien souvent, il suffisait d'un regard, hein, allié à un mouvement de la bouche, là, comme ça, puis ils avaient peur et puis ils arrêtaient leur bêtise, pas tout le temps, mais ça marchait quand même souvent, quoi. Toujours est-il que le regard est important. On peut avoir un regard paisible. Hein, on regarde quelqu'un qui va vous regarder d'une façon et qui va amener comme une paix. Il y a le regard rempli de compassion aussi. Il peut y avoir un regard méfiant. Hein, avec le conjoint, par exemple, il vous raconte quelque chose, puis vous prenez un regard méfiant, ou elle rentre de chez le coiffeur, et puis selon la coupe, des fois, vous pouvez regarder avec un regard plein d'amour, ou alors un regard méfiant aussi. Hein. Non, mais aujourd'hui, c'était juste 20 euros le coiffeur. Oui, mais 20 euros, ça n'existe plus. Hein. Par exemple. Donc, le regard peut exprimer le mépris. On peut avoir un regard hautain, un regard accusateur, un regard méfiant. On peut dire que les yeux sont la vitrine de notre être. On peut avoir un regard blasé. Vous pouvez rajouter, hein, la liste n'est pas limitée, il y a plus tous les termes, tous les qualificatifs. Dieu a eu un regard favorable sur Abel et son offrande, et on le voit dans Genèse 4, verset 4. Hein. Nous-mêmes, nous sommes sous le regard de Dieu, c'est-à-dire que Dieu nous regarde. Dans le psaume 35, verset 19, il est dit « Ceux qui me haïssent sans cause ne me haïssent pas du regard. » Donc, il peut y avoir de la haine dans le regard. Comment amorcer une conversation, une relation avec quelqu'un qui a déjà de la haine dans le regard? Comment quelqu'un qui a un regard méfiant? Comment aborder quelqu'un qui a un regard méfiant? Comment est-ce qu'on peut venir vers nous si on a un regard méfiant sur la situation, peut-être des a priori, ce qu'on a entendu de la personne? Le proverbe 15 au verset 30 nous dit « Un regard lumineux réjouit le cœur ». Ça veut dire que quelqu'un qui vient vers vous et qui a un regard lumineux, ça va certainement réjouir notre cœur. C'est beaucoup plus agréable d'être avec quelqu'un, passer un temps ensemble avec quelqu'un qui a un regard lumineux, plutôt que quelqu'un qui a un regard abattu, qui est triste. Le proverbe 22, verset 9 nous dit « Un homme dont le regard est bon sera béni ». Vous voyez l'importance du regard ? Un homme dont le regard est bon sera béni. C'est-à-dire qu'on sent au travers du regard la bonté de la personne. Et bien, la parole de Dieu nous dit que cet homme-là sera béni. Et c'est vrai qu'on a envie de bénir quelqu'un qui a un regard bon. Le proverbe 23, verset 6 nous dit « Ne mange pas le pain dont celui dont le regard est mauvais ». Alors si les super spies, hein, diront on peut plus évangéliser, même les mauvais. Hein. La Bible dit « Ne mange pas le pain de celui dont le regard est mauvais ». Si quelqu'un te regarde avec un regard mauvais, un regard méchant, la Bible dit « Ne mange pas le pain de cette personne-là ». Donc voilà pour le regard, quelques pistes, afin que l'on puisse travailler tout à l'heure. Hein. Si nous souvenons que les yeux, c'est la vitrine de ce que l'on vit. Alors également, le ton, le troisième point, c'est le ton que l'on emploie pour parler. Alors là, je peux employer un ton un peu monotone, un peu soporifique, et puis vous allez vous endormir. Ou alors je peux dire, la façon dont je parle est très importante. La première risque de vous endormir, et puis la deuxième risque de vous convaincre un peu plus. Donc le ton employé est un ton très important aussi. Il peut y avoir des tons agressifs. Au ton, on peut ajouter le volume, c'est-à-dire le nombre de décimènes. Je peux dire à ma conjointe, par exemple, « Chérie, est-ce que tu peux aller me chercher le pain, s'il te plaît ?» Et là, il y a des chances qu'elle aille me chercher le pain. Par contre, s'il dit « Chérie, tu peux me chercher le pain, s'il te plaît ?» C'est exactement les mêmes mots. C'est pas du tout les mêmes décibels. C'est pas du tout la même intonation. Et je pense qu'il y a peut-être une légère différence. Et je sais pas si la deuxième fois, elle va aller chercher le pain. Comme quoi, le ton est important. On peut avoir un ton présomptueux. On peut avoir un ton accusateur. On peut poser une question. Par exemple, dire « Mais avec qui tu étais ce soir ?» On va dire « Avec qui t'étais ce soir ?» Ça dégage pas le même message. Le deuxième devient accusateur maintenant. Par rapport au premier qui est bon interrogatif, mais il n'y a pas forcément de l'accusation. Donc le ton peut être doux, un ton peut apaiser, un ton peut provoquer, un ton peut être un facteur d'apaisement même dans une situation. Il peut y avoir un ton autoritaire. Le débit aussi, la façon dont on parle, la vitesse à laquelle on va s'exprimer. Il y a des personnes qui parlent tellement vite, on n'arrive même pas à les suivre. Et c'est difficile d'avoir une relation avec des personnes qui parlent beaucoup plus vite que vous, parce que ça nécessite un effort particulier. Pareil pour quelqu'un qui va parler beaucoup plus doucement que vous. Ça va nécessiter encore un effort particulier. Il faut s'adapter à la vitesse de la personne et c'est pas forcément l'idéal. Donc, essayez d'adapter notre ton au ton, adapter le débit au débit de la personne avec qui on a une relation. Et si je vis dans une région où il y a un accent assez fort, il faut que j'essaye de m'adapter, non pas prendre l'accent forcément, mais s'adapter à la façon dont les gens parlent dans le coin pour arriver à créer des relations avec eux. Il n'est pas question de parler comme eux et de prendre l'accent du coin, mais au niveau peut-être du ton, au niveau du débit. Pareil dans le couple. S'il y en a un des deux qui parle vite et puis l'autre qui parle toujours doucement et un qui a un ton assez élevé et l'autre plus bas, ben il faut que les deux fassent un effort pour se rejoindre. Parce que sinon, il risque d'y avoir des complications. Un des deux va se lasser inévitablement. Donc dans le couple, c'est un excellent exercice de s'adapter à l'autre. Et ça dépend aussi de l'origine, parce qu'il y a des nations qui partent, par exemple des personnes d'Afrique du Nord qui vont avoir un ton un peu plus fort, un peu plus élevé que des personnes qui viennent du Midi. Donc il y a une adaptation, il faut connaître l'histoire de l'autre pour savoir pourquoi il parle de cette façon-là. Et c'est pas forcément accusateur quand quelqu'un qui est d'origine maghrébine va avoir des paroles un peu plus dures que les autres. Et puis essayer aussi, lorsqu'on parle du ton, lorsqu'on parle du débit, de faire des phrases correctes avec des verbes, des sujets, des compléments, que ce soit des phrases cohérentes. C'est tellement plus agréable de s'exprimer avec de belles phrases plutôt que parler de façon où on se comprend soi-même, mais finalement l'autre va pas forcément nous comprendre. Hein. Et puis nous sommes dans une génération SMS, nous sommes dans une génération texto, où on se comprend quand on envoie nous-mêmes des textes, mais il m'est arrivé, moi, de lire des textos, je comprenais pas grand-chose, tous ces messages-là. Donc c'est important, quand on s'exprime, de s'assurer que les mots que j'emploie vont être des mots compris au moins par la personne qui va être... en face, celle avec qui je vais avoir une relation, bon, que les phrases soient bien faites, hein, on en a déjà parlé un peu, que même de réfléchir avant de parler, de savoir ce que je vais dire et savoir comment exprimer ma pensée. Donc le ton, la façon de parler, la formulation des phrases, ça aussi sans être trop littéraire non plus. Il dit, ce matin, vois-tu, mon ami, quand je suis venu vers toi, j'ai une envie irrésistible. Non, on n'est pas des choses comme ça non plus. Mais je crois simplement de trouver des mots que tout le monde va comprendre avec un ton agréable aussi. Hein, qu'on puisse s'écouter et puis savoir un peu le message qui passe au travers du ton et la formulation des phrases. S'assurer que l'autre puisse bien comprendre ce que l'on dit. Ça fait partie d'un travail, d'apprendre à communiquer, qu'une tierce personne puisse venir au sein de notre conversation, entendre et comprendre ce que je suis en train de dire, comprendre ce que nous sommes en train de dire. Et pour ceux qui ne sont pas mariés, la communication est aussi très très importante. Pourquoi ? Imaginez-vous que vous êtes en train de discuter avec quelqu'un et qu'il y a l'élu de votre cœur qui est en train de parler et d'entendre la conversation. Et si vous êtes en train de parler avec quelqu'un en employant des mots d'argot et que lui ne comprend rien du tout, c'est certain que ça risque d'établir déjà une frontière. Pareil si vous parlez bon chic, bon jar. Donc quel que soit l'excès dans la façon dont on s'exprime, s'il arrive là-dessus, il risque de pas forcément comprendre ce que vous dites. Hein. Voilà. Donc c'est important de faire attention à la façon dont on s'exprime, au ton, au décibel aussi. Moi, depuis pas mal de temps, je suis dans une famille où il y a des personnes d'origine pied noir, et j'aime beaucoup cela. Mais c'est vrai que le ton est un peu plus sec que le ton européen. J'ai grandi dans un quartier à Grenoble où c'était un quartier où en face de la maison de mes grands-parents, il y avait le café El Saba et le café El Badja. Et ben, je peux vous dire qu'au niveau du ton, souvent, c'était 11h le soir, moi je pensais qu'ils se battaient dehors. Alors, ils se battaient pas. Ils étaient en train de parler. C'est leur mode de vie. Et moi, j'avais l'impression qu'ils allaient se battre. Moi, le petit français né en France, j'étais l'étranger du coin. Et il a fallu que je découvre les Africains aussi, c'est un peu plus violent que nous. Et puis ils vont pas se bagarrer, ils sont en train de s'expliquer. Et puis il y a les gestes en plus. C'est un autre mode de communication. Alors quand vous avez un Français qui est marié avec quelqu'un d'Afrique du Nord ou du Maghreb, ben c'est pas forcément évident. Moi, je connais un ami qui est africain, hein. Il est pasteur, il est pas en France, il habite dans une autre nation. Il avait des problèmes énormes avec son épouse. Pourquoi? Parce qu'elle-même est née en Algérie. Oh, elle doit faire 50 kilos, lui il doit faire 1m90, bien 100 kilos. Et il avait des problèmes avec elle. Pourquoi? Parce que elle, de temps en temps, il disait, si tu continues, je te tue. Mais pour lui, un Africain, même grand, même balèze, il faisait des rêves la nuit en la voyant arriver avec un couteau pour la tuer. Il avait peur d'elle. Et il a fallu qu'on en parle. Et elle-même lui dit, mais non, quand je te dis je te tue, ben c'est que j'arrête de te parler, c'est pas que je t'ai vendre. Parce que pour lui, là, l'Africain, le mot je te tue, c'était qu'on le transperce du bas jusqu'en haut et qu'on allait mettre fin à ses jours. Voilà, donc ça va avec le temps, ça va l'autre point qu'on va aborder maintenant, qui est le quatrième point, c'est le poids des mots. Et là, il est question du poids des mots que nous communiquons. Qu'est-ce que le mot veut dire? Est-ce que je me suis assuré que le mot que j'employais avait la même signification pour moi que pour celui à qui je donne le mot? Moi, j'ai un ami, il prêchait. Et c'est un pasteur. Et à un moment donné, lors de sa prédication, il dit « Est-ce que vous êtes prêt à faire des folies pour Dieu ?» Alors pour moi, le mot « folie » a une certaine connotation. Il dit « Mais est-ce que vous êtes prêt à être fou pour Dieu ?» Alors il a marqué un temps d'arrêt et l'auditoire était dans l'attente. Et puis il y avait les gens qui attendaient quoi. Et puis moi j'étais dans l'attente aussi de savoir qu'est-ce que c'était que cette folie. Et là il donne l'explication. Il dit moi j'avais des folies pour Dieu. Et j'ai fait des folies pour ma femme aussi. Alors, je dis oui. Et il dit ce matin par exemple j'ai fait une folie. Je me suis levé 10 minutes avant. Je suis allé dans la cuisine. J'ai pris un plateau et là, j'ai fait 2 cafés et j'ai amené le café au lit à ma femme. Moi, je regardais. Ça, c'est des folies. Moi, depuis que j'ai entendu ça, je dis à ma chérie tous les matins, parce que ça fait très longtemps que tous les matins, je prends le café au lit avec mon épouse. Mais j'avais jamais réalisé que c'était une folie. Et pour ce frère-là, c'était une folie. Et maintenant, moi, le matin, j'aime aller dans la chambre où j'arrive, puis je danse avec mes tasses à café. Je dis, chérie, t'as vu? Je fais des folies pour toi. Oui, le mot folie n'avait pas du tout la même signification pour lui que pour moi. Je respecte cela. Et moi, j'avais pas du tout notion que ça pourrait être une folie. Pour moi, c'est normal. Et c'est la même personne qui racontait une fois, moi, quand j'étais jeune, j'étais un voyou. C'est ce qu'il disait, toujours est-il. Moi, je le connaissais depuis bien 7 ans. Il n'avait pas du tout l'impression, il me donnait pas l'impression d'avoir été quelqu'un qui avait été un voyou. Et il raconte, il dit, en pleine prédication encore, il dit, moi j'étais un vrai voyou quand j'étais jeune. Et j'attendais de savoir ce qu'il avait fait. Et là, il donne l'explication. Il dit, le soir, je sautais sur mon lit, et quand mon père montait pour nous disputer, je me mettais dans le lit, et c'est mon frère qui se faisait disputer, et c'est par moi. Et mon père me disait, t'es vraiment un voyou quand je lui avouais ces choses-là. Mais pour moi, voyou, j'ai côtoyé des voyous. C'est pas quelqu'un qui saute sur le lit et qui laisse son frère s'être disputé à sa place. Pour moi, un voyou, ben c'est ce que j'ai côtoyé, là où j'ai vécu, c'est-à-dire des gens qui faisaient des casses, qui se faisaient... arrêté par la police, qui allait en prison, qui faisait de la prison, et puis qui sortait de prison et qui recommençait, des gens qui cassaient des voitures. Voilà, simplement, disons que le mot n'avait pas du tout la même connotation que moi-même, quoi. Voilà le poids des mots. Alors, je n'ai jamais demandé si en sautant sur le lit, il avait fait de la prison, hein. Mais simplement, pour qu'on puisse se souvenir du poids des mots, quand j'emploie un mot, j'étais un voyou, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi être un voyou? Quand tu dis que tu as fait des folies, mais qu'est-ce que c'est faire des folies? Si, tout est relatif. Mais pour certains mots, quand même, il y a des valeurs, il y a des explications. Et il faut, lors d'une communication efficace, et ben envoyer les bons mots au bon moment et avec la bonne personne. Et donc s'assurer, même si tout est relatif, que les mots que j'emploie vis-à-vis de la personne ont exactement la même valeur pour moi que pour elle. Par exemple, quand je dis Ben, cette robe-là, elle est chère. Qu'est-ce que ça veut dire, cher? Ben, cher, c'est relatif, encore cher par rapport à quoi? 50 euros pour un, ça sera cher, pour l'autre, ça sera 150 euros. Donc, tout est relatif. Vous comprenez? Et en disant que cette chose est chère, ça peut peut-être bloquer aussi une relation. Donc, faisons attention au poids des mots, faisons attention à la façon dont on parle, et que l'autre puisse comprendre exactement ce que je veux dire, et pas interpréter avec sa façon. Par exemple, quelque chose qui nous plaît pas, au lieu de dire ça nous plaît pas, on va dire ça c'est pas beau. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui a choisi, par exemple, si c'est une robe pour une dame, elle a choisi, elle a passé l'après-midi à choisir une robe, elle en a vu plein, elle a essayé plein, puis nous on a dit c'est pas beau. Ben non, peut-être ça me plaît pas, mais ne pas dire c'est pas beau. Parce que sinon ça veut peut-être dire que pour elle c'est beau, mais en vérité c'est pas beau, donc son choix il rime à rien. Vous comprenez? Donc c'est très très important d'employer des mots qui ont la même signification pour l'un que pour l'autre. Pareil pour dire c'est affreux. Hein, quand on dit c'est affreux, on peut dire bon ben c'est pas tout à fait mon goût. Parce que dire c'est affreux, ça risque de bloquer aussi la relation. Tout à l'heure, là, avant de venir, on a vécu quelque chose d'assez intéressant, c'est que bon, comme je vais marier ma troisième fille là bientôt, eh ben on est en plein choix pour les robes. Et puis tout à l'heure, c'est Sandrine qui arrive et qui dit à mon épouse, donc ma fille aînée, qui dit à mon épouse, écoute, j'ai vu une robe, elle est pas mal dans tel magasin. Et mon épouse qui dit, écoute, cette robe-là, je l'ai vue, j'ai pensé à toi, mais c'est pas la peine parce que tu rentres pas dedans. Alors imaginez-vous. Que la réaction de ma fille, et de suite elle a regardé en rigolant, elle dit, ah bon, pourquoi tu penses que je suis grosse? Alors que c'était pas du tout ça, il était question peut-être de taille, mais aussi de couleur et de forme, et pas forcément de poids. Donc voilà encore un mot qui a été employé, ça t'ira pas, quoi, tu rentres pas dedans, qui veut pas dire forcément qu'elle est grosse, quoi, hein. Donc voilà un cas qui est très précis au niveau du poids des mots. Le poids des mots concernant aussi, par exemple, la façon dont on parle, même à un enfant. Par exemple, quand un adulte va dire à un enfant, tu continues, je te dévisse la tête. Alors là, peut-être que vous allez rigoler, mais moi, j'ai rencontré des enfants, un enfant tout au moins, qui rêvait la nuit que son papa lui dévissait la tête. Parce que lui, il s'imaginait que papa y venait parce qu'il avait fait une bêtise, et puis il était en train de prendre la tête par les oreilles, là, puis dévisser la tête. Hein. Mais on a vécu aussi, nous-mêmes, des choses dans notre enfance, chacun d'entre nous, des mots qui nous ont... accusés, qui nous ont marqués quand on nous a dit tu es un bon à rien, tu vaux rien, tu fais jamais tes devoirs, ou dans un couple on va dire au conjoint tu mets jamais la table, tu fais jamais les courses, tu fais jamais rien, tu fais toujours aussi mal, enfin voilà le poids des mots, ça va accuser, ça va pas forcément faciliter la discussion dans le couple, dans la famille. Et puis même si on est parent avec beaucoup d'enfants, on doit veiller à s'adresser aux enfants sans toucher leur dignité, n'est-ce pas? Alors, sur le ton, Matthieu 5, verset 5, nous dit « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » Voilà. Donc, si je suis doux, eh ben j'ai part à un héritage. Proverbe 15, verset 1er, une réponse douce, calme la fureur, alors qu'une parole blessante excite les querelles. Vous voyez, par rapport au temps, par rapport aux mots. Cantique 2, verset 14. Fais-moi entendre ta voix est douce, ton visage charmant. Donc c'est vrai qu'en une voix douce, il peut y avoir un visage charmant. Ça va engendrer un visage charmant. Une langue douce est un arbre de vie, va nous dire le proverbe 15 au verset 4. Une langue douce est un arbre de vie. Vous voyez, là, et Deutéronome 28, verset 50, nous dit, une nation au visage farouche qui n'aura ni respect, ni pitié pour le vieillard, ni respect pour l'adolescent. Hein, voilà. C'est la question du comportement. Donc voilà les quatre points, qui fait que finalement nous sommes nous, tu es toi, quand tu parles. Dis à ton voisin, tais-toi quand tu parles. Dans le sens où, quand tu parles, tu es toi-même. Quand tu parles, tu reflètes qui tu es. Donc ce matin, on va voir 6 points, qui sont des points aussi très importants, comme les 4 que nous avons vus hier au soir. mais des points sur lesquels nous allons travailler ensemble. Amen. Donc, prendre conscience de ces points qu'on a vus hier, prendre conscience de ce que l'on va dire ce matin. Le premier, qui est le cinquième, donc par rapport à hier, c'est d'écouter jusqu'au bout. Et c'est vrai que le fait de couper la parole, c'est vraiment une attitude néfaste. Et je sais que c'est très désagréable quand on veut dire quelque chose à quelqu'un, on commence sur une idée, et la phrase n'est pas terminée, que la personne vous coupe la parole. Alors je sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé d'avoir la parole coupée, ça m'est arrivé aussi de couper la parole. Et ça c'est quelque chose de très 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 désagréable et qui va pas forcément favoriser la communication. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette facilité de couper la parole? Parce qu'on peut avoir une faculté de se glisser dans la tête de l'autre. On a cette faculté dans le couple parce qu'on le connaît tellement, ou on a l'impression de le connaître tellement, qu'on devine la fin de la phrase avant même qu'il ait dit la fin de la phrase. Donc on répond à l'autre avant qu'il ait fini sa phrase. Et en communication, on doit apprendre que la fin de la phrase est tout autant importante, si ce n'est plus, que le début de la phrase. Donc ne répondons pas en vain. Alors ça engendre quoi? Ça engendre qu'on va même penser pour l'autre. Oui, mais je savais ce que tu allais me dire. Attends, laisse-moi aller jusqu'au bout. Une fois, moi, j'ai dit à quelqu'un hein, qui aimait bien me couper la parole, et quand je lui ai expliqué que je voulais jusqu'au bout, il me dit « Oui, mais je savais ce que tu allais dire. » Et je lui ai dit « Mais qui es-tu pour savoir ce que je pense ?» Et même dans le couple, hein, on peut des fois, à cause du regard, dire « Mais moi, je sais ce que tu penses. » Alors, ça se peut des fois, et c'est vrai. Mais des moments, ça peut frôler l'occultisme. Et il n'est pas question d'occultisme chrétien, mais de deviner par avance ce que l'autre veut dire. Alors si t'as pas ta boule en cristal, si t'as pas ton marc café avec toi, écoute, laisse-moi terminer ma phrase, parce que j'ai le droit de m'exprimer tel que je suis. Même si on est marié depuis longtemps, eh ben on apprend à se connaître, n'est-ce pas? Et j'ai le droit de terminer ma phrase comme toi tu as droit de finir ta phrase. Laisse-moi terminer ma phrase, ne te glisse pas dans ma tête, c'est déjà tellement fatigant d'être dans sa propre tête à soi que de vouloir être dans la tête de l'autre, ça c'est vraiment épuisant, n'est-ce pas? Donc ça c'est un problème relationnel énorme de pouvoir penser pour l'autre, de deviner ce que l'autre pense. L'autre peut devenir nerveux, il peut devenir irritable, irrité, irritant, nerveux, désagréable, et finalement c'est un peu normal, hein. Et quand ça se passe au niveau du couple, on peut en discuter, mais quand ça se passe au niveau d'un autre, on va pas forcément lui dire. Et là, ça peut être un empêchement à une relation, parce que l'autre aura pas forcément envie d'avoir une relation avec quelqu'un qui coupe la parole. Ça peut engager l'autre à, ouais, mais simplement couper la relation. Vous-même, est-ce que vous aimez avoir des relations avec quelqu'un qui vous coupe la parole? Non. Ben dans le couple, c'est pareil. Et on voit des fois des hommes discuter avec d'autres femmes ou des femmes discuter avec d'autres hommes. Puis quand on les a en entretien, ils disent « Mais oui, mais avec mon conjoint, moi je peux pas, ou ma conjointe, je peux pas discuter. » Parce que à peine j'ai dit je commence la phrase, qu'il l'a fini. On a tous le besoin, et c'est un besoin fondamental, d'être écouté. Et donc, comme l'autre aussi a les mêmes besoins que moi, j'ai besoin d'être écouté. Ça veut dire que l'autre a besoin d'être écouté. Alors je l'écoute jusqu'au bout dans tout ce qu'il a à dire. J'ai ce besoin-là, lui, il a ce besoin-là aussi. Alors, par grâce, je vais écouter l'autre jusqu'au bout. Comme ça, le jour où je parlerai, le moment où moi-même je parlerai, lui-même me fera la grâce de m'écouter jusqu'au bout aussi. Et bien souvent, la réponse est différente quand on écoute la phrase jusqu'au bout. Le principe de la communication, c'est de pas faire aux autres ce qu'on aimerait bien qu'on nous fasse pas du tout. J'ai besoin d'être écouté, donc l'autre a besoin d'être écouté. Ça nécessite un effort, on le sait, mais je vais apprendre à écouter l'autre jusqu'au bout. Matthieu 19, verset 19, qu'on retrouve dans Matthieu 22, qu'on retrouve dans Marc 12, au verset 31, qu'on retrouve dans Luc 1, Luc 10, verset 27, sauf erreur, dans Romains 13, qu'on retrouve dans Galates 5, verset 14, qu'on retrouve encore dans Jacques 2, verset 8. Hein, il est dit ceci, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors, ce que j'aime pas qu'on me fasse à moi, je le fais pas à l'autre. Comme j'aimerais qu'on agisse avec moi, alors je vais agir de cette façon-là avec l'autre aussi. n'est-ce pas? Donc écoutez jusqu'au bout, ça c'est un point, cinquième point qui me paraît important aussi, et ça nous permettra d'avoir une vie relationnelle plus cool, plus paisible, hein, et des relations beaucoup plus agréables. Un autre point que j'aimerais voir avec vous, c'est profiter de l'instant présent. Et ça c'est un point sur lequel je médite régulièrement, et c'est vrai, moi j'ai un secret, et ça vous en faites ce que vous voulez, mais pour avoir une vie beaucoup plus tranquille, beaucoup plus paisible, moi j'ai ma façon de faire. Et ça n'engage que moi, donc je vous le partage. Je vis aujourd'hui comme si c'était aujourd'hui mon dernier jour de vie. Est-ce que vous êtes choqués par cela? Je veux vraiment profiter de la vie aujourd'hui. Et moi j'ai certainement un avantage sur la plupart d'entre vous, c'est que j'étais 2 ans dans un centre d'handicapés physiques. Et j'étais très heureux ce week-end, entre parenthèses, d'être à Nice pendant 2 ans, où j'ai pu proclamer la victoire de Christ, proclamer la vie de Jésus sur la ville de Nice, par rapport à tout ce que j'ai pu vivre là-bas. Mais pendant 2 ans, j'étais avec des handicapés physiques. Et à force de les côtoyer, j'ai appris à rendre grâce à Dieu pour l'état dans lequel je suis. Et ça m'amène à profiter pleinement de l'instant présent. Je veux profiter de ma conjointe tous les jours que Dieu me donne. Je veux profiter de mes enfants, dès qu'ils sont là, chaque jour que Dieu me donne. Je veux profiter de ma famille tous les jours que Dieu me donne. Je veux profiter de l'air que je respire. Je veux profiter du temps, des arbres, des champs. Je veux profiter de tout cela. Et ça me donne pas une excuse pour faire n'importe quoi, mais d'avoir cette crainte de l'Éternel, de faire que ce qui lui plaît à lui. Mais ça m'amène dans un climat de grâce, de reconnaissance. Et peut-être que mon cœur peut s'arrêter de battre maintenant. Vous avez pensé à ça? Vous vous rendez compte, le séminaire s'arrêterait là maintenant? Voilà, mon cœur s'arrête de battre. Et ça peut être pour l'un d'entre nous, on le souhaite pas quand même, hein. Mais je veux profiter au maximum de l'instant présent, comme si c'était le dernier jour. Donc je veux pas faire la gueule. Je veux pas m'engager à faire la gueule avec un frère ou une sœur. J'ai même pas envie de me fâcher. Il y en a qui sont fâchés avec moi, c'est leur problème. Moi, j'ai pas envie d'être fâché avec eux. Je veux être cet homme de paix autant que ça dépende de moi. Mais moi, j'ai pas envie de me fâcher. Je veux avoir des projets, ça veut pas dire que j'ai pas de projets si je profite de l'instant présent. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai beaucoup de projets. Mais je veux profiter au maximum de maintenant. Et ça va procurer un côté paisible, ça va procurer une sérénité. Et c'est cette paix que Dieu nous donne qui nous permet de vivre l'instant présent. Et moi j'ai réalisé que si je profitais pas de l'instant présent, figurez-vous, je pensais à ce qui s'était passé hier. Et je pensais donc aux soucis d'hier, d'avant-hier, je pensais aussi aux joies d'hier, et ça c'est pas forcément mauvais, mais déjà je me faisais du souci pour demain aussi. Alors, vivre aujourd'hui en se faisant du souci pour demain, ou même de la joie pour demain, ça nous évite de croquer à pleines dents dans le moment présent, avec qui je suis, avec vous. Matthieu 6, verset 34 nous dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Et ça, je le dis, ça m'amène pas dans une attitude négative, légère, mais au contraire, il y a du poids parce que c'est l'instant présent qui vaut le coup d'être vécu. Et si je pars maintenant et je dois voir mon Seigneur maintenant, je veux être libre devant lui, je veux être au clair devant lui. Ça m'amène dans un climat de transparence, je veux être au clair avec chacun d'entre vous, que ce qu'on ait pu se dire, eh ben on ait pu le dire. Il n'y aura pas de compte à régler là-haut, que ce soit réglé ici, là, maintenant. Moi, pour ma part, tout est dit, tout est fait. Mais voilà, moi je suis prêt pour aller à la maison. I'm ready. Mais je crois que j'ai encore à faire ici. Mais pensez que de vivre pleinement aujourd'hui, de profiter de la vie maintenant, ça m'a rendu beaucoup plus cool. Et puis le seul endroit, tout réfléchi, le seul endroit où je peux travailler, c'est maintenant. Le seul endroit où je suis plongé, c'est le présent, c'est maintenant, c'est 24 heures sur 24. C'est aujourd'hui que je dois faire quelque chose, c'est maintenant. Je dois remplir le moment, là, maintenant, au niveau de l'enseignement, et puis le faire le mieux possible. Je suis en train de remplir l'heure, là, maintenant, le moment présent. Et je peux pas le faire en ayant mes pensées sur ce qui s'est passé hier à ce qui va se passer demain. Ça me permet de gérer le temps présent. Mais c'est maintenant le temps. Et je veux remplir pleinement. Demain, ça appartient à Dieu. Et demain va être un présent. Demain sera un présent demain. Et on verra demain ce qui se passe. Et ça amène la reconnaissance de ce que Dieu fait. Ça amène que quand le passé vient, je le rumine pas. Ça vient que j'ai pas la crainte de l'avenir. Je peux même pas dire ça ira mieux demain. Parce que demain, ça appartient à Dieu. et je veux tout faire pour que ça aille mieux maintenant. Et comme vous avez fait votre groupe hier avec les quatre points que l'on a vus, eh ben on faisait notre point avec mon épouse sur les quatre points qu'on a vus ensemble hier. Et elle me disait, mais toi, tu dis toujours ce que tu as à dire, tu dis tel que tu es, des fois, fais attention au niveau des mots, tu vas être un peu plus politique. Et j'ai pu lui dire, mais moi, je peux pas être politique, je dis les choses de maintenant, et je dois faire des progrès, pour m'exprimer un peu mieux, c'est vrai, mais je veux tellement vivre l'instant présent, que je vais pas essayer de calculer ou de prévoir pour demain si je dis quelque chose maintenant qui pourrait être employé demain. Moi, j'y arrive pas. Bon, mais ça, c'est mon expérience, hein. Voilà. Quelqu'un qui a toujours le souci d'hier et la pensée de demain, ça se répète à l'infini. Et c'est quelqu'un qui profitera jamais du moment présent. Et le gros problème, c'est que dans le présent, on voit les enfants qui grandissent. On voit les personnes que l'on aime, qui sont en train de disparaître aussi. Et souvent, penser à demain et puis regarder à ce qui s'est passé hier, avant-hier, fait que les personnes arrivent à un âge donné, à un moment donné, où elles réalisent qu'elles n'ont pas profité pleinement de l'instant présent, pas profité pleinement des enfants à l'âge qu'ils avaient au moment où ils avaient cet âge-là, et puis les êtres chers qui sont plus là forcément. Donc il y a vraiment un encouragement à profiter du moment présent. Chaque jour, Dieu veut nous bénir et nous bénir d'une façon différente chaque jour. Il veut se manifester d'une façon différente aujourd'hui, qu'il se manifestera certainement demain. Mais aujourd'hui, sa grâce me suffit, son amour me suffit, sa présence me suffit, votre présence me convient parfaitement. Et je veux pas attendre pour vivre d'autres choses avec mes enfants. Quand nous étions jeunes, on vivait cela un peu, hein. On avait 10-12 ans et on attendait d'avoir 18 ans. On profitait pleinement de l'âge que l'on avait. On attendait d'être majeur, et puis une fois majeur, on dit finalement il y a rien de plus. Puis après on attend d'être marié, puis marié, c'est pas qu'il y a rien de plus, il y a beaucoup de choses en plus, hein. Mais profitons du moment. Les célibataires, ils regardent comment vivent les mariés regardent comment vivent les célibataires. Non, vis l'état dans lequel tu es comme un don de Dieu à aujourd'hui dans ce que tu es, et vis vraiment la grâce de Dieu comme s'il restait plus que 10 minutes à vivre. Ça veut pas dire que je vais faire n'importe quoi, ça je le répète, c'est important, parce que je rends grâce à Dieu, mais ça m'amène dans cette dimension de grâce, de reconnaissance, dans laquelle je suis bien et je suis beaucoup plus paisible. Dernièrement, il y a une personne qui venait vers moi pour faire des compliments, et quand on parlait de l'âge, et que je lui dis l'âge que j'avais, elle me disait, mais ça se voit pas. Je dis, mais écoute, mais t'es bien gentil de dire ça, mais si toi tu dis que ça se voit pas, moi je peux te dire que je le sens. Parce qu'il y a quelques années, je faisais certaines choses que je fais plus maintenant. Et heureusement que j'ai pu faire ces choses-là il y a quelques années, parce que je pourrais plus les faire maintenant. Dernièrement, c'est mon épouse encore qui me disait, mais on sort beaucoup. Et bon, par rapport à des invitations que l'on a, que l'on accepte, puis on prie pour cela, et on est d'accord pour partir ensemble, mais c'est vrai qu'on fait de temps en temps ce constat, comme quoi on s'absente pas mal finalement. Et puis finalement, je disais, mais tu sais, toutes les sorties que l'on fait à l'étranger, dans d'autres villes, d'abord ça nous permet de visiter d'autres villes, et puis on est en train d'accumuler des souvenirs pour plus tard. Parce que plus tard, qui nous dit que l'on pourra visiter les lieux que l'on visite maintenant, rencontrer les gens que l'on rencontre maintenant? Donc on apprend aussi à croquer à pleines dents dans la vie que Dieu nous offre maintenant. Et puis si on peut voyager maintenant, eh ben on le fait, dans le sens où Dieu le permet et Dieu le veut, il nous semble. Et puis eh ben on verra bien demain comment ça se passe, hein. Mais on est très 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 heureux de vivre pleinement notre engagement maintenant. Et on ne veut pas attendre demain pour faire des choses pour Dieu. On le vit maintenant. Par exemple, je vais vous poser une question. Qui est-ce qui est sûr qui sera ici demain? Vous voyez, regardez-vous, personne lève la main. Par contre, qui est-ce qui espère être là demain? Ah voilà, là tout le monde lève la main, hein. Ben, vous avez bien raison, moi aussi j'espère être là demain. Mais aujourd'hui, je veux en profiter, et parce que le seul temps que je peux contrôler, c'est maintenant. C'est maintenant. Là, je peux contrôler maintenant, n'est-ce pas? Et demain, je peux pas le contrôler, hier, c'est trop tard. Donc je veux vivre aujourd'hui comme si c'était le dernier jour. Et rentrer dans cette dimension-là va faire de nous, au niveau des relations, des personnes qui vont rendre grâce à Dieu pour ce qu'on vit et profiter pleinement de ce que Dieu nous donne là maintenant. Matthieu 6, verset 34 nous dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. » On le retrouve dans des psaumes, également le psaume 1. Ah oui, verset 3. Vous savez, il est dit que l'homme est près d'un cours d'eau qui donne son feuillage en son temps. Son feuillage se flétrit point. Voilà. Il y a pas mal d'autres psaumes aussi, d'autres choses qu'on peut voir, on ne le verra pas maintenant. Hein. Donc, une autre chose que j'aimerais aborder avec vous ce soir, c'est décider d'apprendre de l'autre. Éphésiens 4, verset 2, il est dit « Soyez simples, doux et patients, supportez-vous les uns les autres avec amour. » Et quand il dit « supportez-vous les uns les autres avec amour », il y a cette notion pas de se supporter parce que c'est pénible et c'est fatigant, mais le fait de l'aimer parce que lui-même va m'apprendre quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'il a une histoire. Il a des origines différentes de moi. Chacun d'entre vous, vous m'avez tous appris quelque chose. Tous, tous. Et peut-être un défi de l'année qui est devant nous, c'est autant que nous sommes, là nous étions pas loin de 70, là hier au soir, c'est que moi-même je puisse apprendre des 70 autres et que toi-même tu puisses apprendre quelque chose des 70 autres. Il y a déjà 70 personnes là dans l'année qui vient qui pourront t'apprendre quelque chose, qui pourront t'apprendre son histoire, t'apprendre qui il est. Moi je connais pas mal d'histoires en tant que pasteur et je comprends le comportement de chacun d'entre nous à cause de notre histoire, la façon de parler, la façon de voir la vie, la façon de se prononcer sur des événements économiques, politiques, ce soit toute l'actualité, tout ce qui fait finalement les battements de notre cœur, l'histoire avec les parents. Vous m'avez tous appris quelque chose. Mon épouse m'apprend énormément, ma maman m'apprend énormément, mon frère, mon fils, ma fille, chacun. Chacune des personnes que je côtoie m'apprend quelque chose. Mais ça, c'est comme une stratégie de vie. Quand je rencontre quelqu'un, qu'est-ce que cette personne va m'apprendre? Et il faut opter pour cette stratégie de vie afin que l'on puisse s'épanouir. Par exemple, si quelqu'un me fait une queue de poisson en voiture, eh ben la personne, elle m'apprend qu'avant de rencontrer le Seigneur Jésus, ben j'étais exactement comme ça. Au contraire, quand la personne me faisait une queue de poisson, eh ben moi je repassais devant pour une autre faire une queue de poisson aussi, ou je klaxonnais, je faisais des appels de phare. Et ça, j'apprends aussi que j'ai fait des progrès, parce que maintenant je réagis plus comme cela. Et puis je rends grâce à Dieu, ça m'apprend à rendre grâce à Dieu, parce qu'avant j'étais comme ça, je pouvais même m'énerver un peu plus. Et là, ça m'apprend la reconnaissance envers le Seigneur, parce que je fais plus ça, et puis je suis tellement heureux de vivre et de plus m'exciter à cause de ces choses-là. Ce matin, j'ai eu une femme devant moi qui conduisait sa voiture, qui est passée en plein feu rouge. Et ça m'a appris quelque chose, ça m'a appris que moi aussi je faisais ça avant, et j'ai réalisé que Dieu gardait cette femme. Et ça m'a appris que Dieu gardait aussi cette personne qui l'a certainement pas fait exprès vu l'âge qu'elle avait et la façon dont elle conduisait. Et ça m'a appris que Dieu allait garder cette personne et qu'il gardait cette personne. Quand je passe au supermarché et tu vois une caissière qui rouspète, qui fait la tête, qui est désagréable, quelqu'un, tu dis bonjour, elle te répond pas. Ben, moi, ça m'apprend la compassion. Parce que peut-être que son travail, c'est pas forcément un travail qu'elle fait par plaisir. C'est un travail qu'elle fait parce qu'elle a des besoins financiers, et puis ça m'apprend la compassion. Il y a quelques années de cela, je disais, mais si elle n'est pas contente, elle doit faire autre chose. Eh ben non, depuis que j'ai réalisé cette stratégie de penser qu'elle peut m'apprendre quelque chose, eh ben j'apprends à avoir de la compassion pour cette personne, réaliser qu'elle-même aimerait peut-être faire quelque chose et que finalement c'est pas facile de passer une journée de cette façon-là. Voilà. Donc c'est pas une question d'apprendre une religion bouddhiste ou zen, hein. C'est simplement d'apprendre l'attitude de Jésus. Jésus était rempli de compassion. Et une des clés du miracle de Jésus, c'était d'être rempli de compassion. Donc c'est comme un jeu, cette attitude, hein, de voir ce que chaque personne va m'apprendre quelque chose à aujourd'hui. Et des fois je me lève et je dis, mais qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui? Et souvent ça touche la compassion, l'amour pour l'autre. C'est-à-dire que l'autre, il devient comme une école vivante pour moi, en quelque sorte. C'est une école vivante, et je suis à l'école, j'apprends des autres. Et ça me parle chaque fois, parce que souvent je me retrouve dans des choses que j'ai pu faire, ou des choses que je fais encore. Un autre point qui peut nous rendre la vie beaucoup plus agréable, c'est laisser l'autre avoir raison. Là, je vois sur certains que c'est pas forcément facile. Pour moi, ça n'a pas été facile du tout. Laissez l'autre avoir raison.
Nous espérons que ce message vous a plu et qu'il a été pour vous une véritable source de bénédiction. Ce message a été diffusé par le ministère enseigne-moi.com. Nous vous invitons à visiter notre site internet www.enseignemoi.com sur lequel vous pourrez écouter et commander des centaines de prédications. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.